Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal, François-Xavier de Calonne. Un raid de l'armée israélienne en Cisjordanie occupée, au moins 9 Palestiniens ont été tués à Jénine. Une manifestation ce jeudi devant le palais de justice de Beyrouth, des proches de personnes tuées lors de l'explosion au port de Beyrouth le 4 août 2020 et des députés ont manifesté pour demander que le juge Tarek Bitar soit autorisé à poursuivre son enquête. Il y a toute une partie de la population libanaise qui ne s'en sort plus. Le cri d'alarme du sénateur des Français établi hors de France, Olivier Cadic, de retour du Liban, il sera l'un de nos invités. L'approfondissement des relations bilatérales entre la France et l'Irak, leur coopération pour la stabilité du pays et la lutte contre le terrorisme, l'objet d'une rencontre ce jeudi à Paris entre le président français et le premier ministre irakien. L'invité de Pluriel était Landry Ngang, co-référent du livret Quartier populaire de la France insoumise, membre du Parlement de la NUP. Il est revenu notamment sur la réforme des retraites, extrait dans votre journal. Riyad Satouf, auteur de L'Arabe du futur, remporte le Grand Prix du Festival d'Angoulême, la plus haute récompense en France du monde de la bande dessinée. Ce lourd bilan en Palestine, au moins 9 Palestiniens ont été tués et une quinzaine grièvement blessés dans le nord de la Cisjordanie occupée. C'est arrivé ce jeudi lors d'un raid israélien à Jénine. Un bilan fourni par le ministère palestinien de la Santé. La ministre indique que les forces israéliennes ont, selon ses mots, délibérément tiré des grenades de gaz lacrymogène dans le service pédiatrique d'un hôpital de Jénine, provoquant l'asphyxie de certains enfants. Elle a demandé l'organisation d'une réunion urgente avec le Comité international de la Croix-Rouge et l'Organisation mondiale de la santé. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, se rendra en Égypte dimanche, puis en Israël et en Cisjordanie. Un rassemblement a eu lieu ce jeudi devant le palais de justice de la capitale libanaise. Des proches de personnes tuées lors de l'explosion au port de Beyrouth le 4 août 2020 et des députés ont manifesté pour demander que le juge Tarek Bitar soit autorisé à poursuivre son enquête. Une enquête reprise lundi dernier. Les manifestants dénonce les pressions exercées à l'encontre du juge, le juge Tarek Bitar qui poursuit le procureur général près la Cour de cassation et 7 autres personnes, dont 3 magistrats. Parallèlement, une vive altercation s'est produite entre députés et juges lors d'une réunion au palais de justice. Le député Adib Abdel Massi a par ailleurs accusé les gardes du corps du ministre de la Justice d'avoir agressé les parlementaires à l'intérieur du palais. Le Liban, théâtre de graves crises économiques, sociales, financière et politique, le pays sans président depuis l'expiration du mandat de Michel Aoun le 31 octobre dernier. Le sénateur des Français établis hors de France, Olivier Cadic, s'est tout récemment rendu une nouvelle fois au Liban. Il a accordé un entretien à Radio Orient. Olivier Cadic.
C'était la 5e fois que je me suis rendu au Liban. Ce qui m'a frappé évidemment en arrivant, c'est cette odeur de fioul. En arrivant à l'aéroport, qui vraiment est très, très surprenante, découvrir Beyrouth avec ces lumières éteintes. Finalement, il y avait très peu d'appartements qui étaient illuminés. Il y avait des feux tricolores dans les rues qui ne fonctionnaient pas, qui étaient éteints. Il y avait très peu de feux tricolores en fait qui fonctionnaient. Le retour a été très surprenant, mais montrait directement le résultat quoi de ce qui se passe actuellement. J'ai rencontré beaucoup de monde qui sont dans des situations parfois critiques, très difficiles, parce qu'ils n'ont pas accès, je dirais, à leur argent. Des situations catastrophiques. Je pense à un franco-libanais qui m'a raconté qu'il avait toutes ses économies, toute sa vie d'économie, et que son fils qui partait faire ses études en France, il était obligé de faire un emprunt parce qu'alors qu'il avait l'argent sur son compte et qu'il ne pouvait pas le sortir pour payer les études de son fils, ce qui lui fendait le cœur. Donc je vraiment des situations avec des gens vraiment en grande difficulté. Ça m'a vraiment marqué. Et donc ensuite, effectivement, un détachement au niveau politique de certains. C'est-à-dire que on a besoin d'un nouveau gouvernement, c'est ce que tout le monde me disait, que de mettre en place des réformes, de répondre, de faire repartir le pays. Il y a une inflation terrible et on voyait la station-service où le prix du carburant n'était plus affiché parce qu'il changeait tous les jours. Donc on imagine la difficulté, les fonctionnaires qui n'étaient pas au bureau quand je venais dans les ministères, qui n'étaient pas au bureau, on expliquait c'est parce qu'ils étaient obligés de faire un deuxième ou un troisième boulot parce que la paye qui arrivait de leur service, finalement ne servaient qu'à couvrir un plein d'essence dans le mois, donc pour faire vivre leur famille, ils étaient obligés de faire autre chose. En plus, malgré tout, ils faisaient quand même tourner le service public comme ils pouvaient. Donc un niveau de crise aigu. Mais d'un autre côté, aussi des gens très résilients qui essayent de trouver des solutions en permanence, donc qui disent aidez-nous, mais qui sont eux-mêmes proactifs, qui ne restent pas les deux pieds dans le même sabot. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment envie de les aider, quoi.
Sur cette situation au Liban, vous avez interpellé la chef de la diplomatie française, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna.
Oui, je l'ai interpellé parce que c'est un peu un engagement que j'avais pris par rapport à certains. Moi, j'ai été appelé par exemple par une avocate qui a perdu son frère dans l'explosion et qui disait c'est scandaleux, rien n'avance, tout est bloqué, il y a une vraie attente. Et comme je savais qu'un des enquêteurs venait pour enquêter justement sur ce qui s'était passé au niveau bancaire, avec des accusations assez lourdes, et que parmi les juges, il y en avait un qui était aussi en charge du dossier de l'explosion. Donc je voulais savoir de la part de la ministre qu'est-ce qu'elle attendait, qu'est-ce que la France attendait donc de ce passage des enquêteurs. J'avais promis jurer à des Libanais et des compatriotes aussi, parce que moi, on a des compatriotes, il y a eu trois compatriotes qui sont décédés dans l'explosion. Donc il est normal, il y a une enquête automatique côté français qui est en cours, mais qui est bloquée du fait, puisque en l'absence de juge, on n'a pas communication des pièces pour pouvoir instruire. Donc c'est un vrai sujet pour nous, et la ministre l'a rappelé, elle attend que effectivement tout ça redémarre. On ne peut pas bloquer les choses éternellement.
Vous faites référence, hein, bien entendu, à cette explosion au port de Beyrouth le 4 août 2020. Le juge Tarek Bitar a choisi de reprendre l'enquête ce lundi. C'est pour vous un élément de satisfaction ?
C'est à ceux qui sont concernés qui vont dire effectivement, tout le monde attend. Attend que ça bouge, quoi. C'est pas possible. On peut pas garder les choses éternellement comme ça. Il y a une attente de justice de la part des citoyens. Il faut que la justice se fasse et on peut pas la bloquer éternellement, quoi. Donc, effectivement, si ce redémarrage nous permet d'avancer, je crois que c'est attendu par toutes les victimes toutes les familles des victimes qui aujourd'hui souffrent terriblement.
Et concernant les liens entre les deux pays, les liens historiques entre la France et le Liban, comment vous évaluez aujourd'hui leur qualité et la situation politique doit-elle être débloquée pour que la France puisse apporter un nouveau soutien ?
Un des grands aspects de ma mission, c'était de contrôler l'action du gouvernement au Liban, de faire voir si l'aide que nous apportions au Liban atteignait bien les objectifs fixés par le président de la République, puis qui était pour lui vraiment d'aider les Libanais. C'était ça l'enjeu, et moi c'est ce que j'ai voulu voir, et j'ai vu que dans le domaine de la santé, j'ai vu Pierre Hanouri qui est conseiller auprès du ministre de la Santé, qui est donc financé, dont le salaire est financé par la France pour aider le ministre à mettre en place tous ses plans, le plan cancer, enfin des tas de plans qui vont bénéficier à tous les Libanais. Ça c'est un exemple, mais j'en ai vu dans le social, j'en ai vu je dirais dans le domaine des infrastructures avec des financements faits par l'AFD. Voilà, ça m'a rassuré. Je l'ai dit d'ailleurs à la ministre, j'étais très fier de cette action collective parce que c'est évidemment, il y a une impulsion du président de la République très forte, soutenue par notre ministre et puis notre ambassadrice Anne Griot. J'ai eu que des retours positifs de son action sur le terrain. J'étais vraiment très très fier, je voulais lui dire, et je voulais qu'elle sache qu'on attendait effectivement la parole de la France à Beyrouth. Donc ça c'est le point. C'est le point très fort avec lequel je suis revenu et que j'ai partagé d'ailleurs avec tous mes collègues.
Les Libanais qui déplorent une émigration, notamment des diplômés ces derniers mois, ces dernières années.
Oui, alors l'émigration surtout de la jeunesse et puis des personnes qui ont un emploi et qui ne pouvaient plus s'en sortir, ils n'ont plus accès à leur compte en banque, leur salaire connaît une baisse terrible du fait de l'inflation. Donc, je veux dire, ils peuvent pas s'en sortir. Beaucoup partent, émigrent. Et c'est là où j'ai quand même voulu pointer du doigt ce que certains observaient. C'est-à-dire que, en fait, cette situation... quelque part de blocage, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt et de pas nommer les choses. Pour beaucoup disent que le Hezbollah est responsable vraiment au départ de cette situation de blocage. Et de fait, je dirais, on a besoin maintenant de retrouver un Liban neutre. On peut pas avoir un pays extérieur qui se sert du Liban pour finalement essayer de passer de son influence. Là, aujourd'hui, ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Il y a toute une partie de la population qui ne s'en sort plus, qui est obligée d'émigrer. Et donc, il faut maintenant, je pense, réussir à avancer aussi politiquement, à nommer un président qui va lui-même nommer un premier ministre, qui va pouvoir former un gouvernement. Et je pense que c'est faire un veto ou chercher à faire un blocage pour son intérêt, l'intérêt personnel d'un des partis, je veux dire, ça emmène le Liban vers des turbulences, on le voit, et vers un niveau de chaos qui est devenu inacceptable. Donc je crois qu'il faut revenir à la raison, il faut revenir au Liban que tout le monde a apprécié, un Liban où on savait vivre ensemble et non pas essayer pour un camp de tirer les marrons du feu en faisant en sorte que les autres s'en aillent du pays.
Olivier Cadic, sénateur des Français établis hors de France. La France est favorable à une action coordonnée au sein de l'Union européenne pour faire libérer les Européens détenus en Iran. Une annonce de la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. L'approfondissement des relations bilatérales entre la France et l'Irak, leur coopération pour la stabilité du pays et la lutte contre le terrorisme, c'était l'objet d'une rencontre ce jeudi à Paris entre le président français et le Premier ministre irakien. Il s'agissait aussi d'évoquer le suivi de la deuxième édition de la conférence de Bagdad pour la coopération régionale et le partenariat, conférence qui s'est tenue en Jordanie au mois de décembre dernier. 14 personnes ont été condamnées à mort par pendaison en Irak, condamnation pour leur participation au massacre de centaines de recrues militaires commis en 2014 par le groupe État islamique au nord de Bagdad. Paris rappelle son ambassadeur au Burkina Faso pour mener des consultations. Une mesure au lendemain de l'annonce du départ des forces spéciales françaises du pays d'ici un mois. La France avait reçu mardi la demande de la junte du Burkina Faso de retirer ses troupes déployées dans le pays. La Russie estime que les livraisons de chars lourds par l'Allemagne et les États-Unis sont un engagement direct des Occidentaux dans la guerre en Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont annoncé que les défenses antiaériennes ont abattu 24 drones et intercepté plus de 15 projectiles tirés sur la capitale par la Russie. L'invité de Pluriel était Landry Ngang, co-référent du livret Quartier populaire de la France insoumise, membre du Parlement de la NUP. Il est notamment revenu sur la réforme des retraites, extrait de cette émission.
Cette réforme, elle est extrêmement injuste pour toutes les personnes issues des classes populaires, notamment les femmes, qui seront beaucoup plus touchées et qui partiront plus tard, mais également ceux qui ont commencé plus tôt à travailler. Et plutôt les personnes des quartiers populaires qui n'ont pas beaucoup de diplômes seront les premières personnes impactées. Donc c'est globalement contre toute cette philosophie-là de cette réforme que je m'oppose, mais également contre les conséquences que ça va avoir. Parce qu'il y a déjà eu le recul de l'âge de départ à la retraite dans ce pays, notamment de 60 à 62 ans. Et on a vu les effets négatifs que ça a eu. Il y a eu une hausse de la pauvreté, une hausse de la précarité, notamment chez les plus de 55-58 ans. Donc c'est contre tout ça que je m'oppose, et c'est pour ça que je continuerai à manifester contre cette réforme et que je demanderai le retrait.
La précarité chez les seniors, c'est parce que ils vont se retrouver dans une situation où ils ne seront ni en emploi, ni en retraite.
C'est exactement ça. On sait que le chômage des seniors est beaucoup plus important, que le gouvernement, en réalité, n'a pas de mesures concrètes pour lutter face à ça, parce que là, ils veulent mettre un indicateur, mais un indicateur qui ne sera pas contraignant. Donc, ça ne sert concrètement à rien. Il propose juste à nos seniors de continuer à être beaucoup plus précaires, à épuiser leurs droits au chômage et ensuite de basculer au RSA jusqu'à attendre leur retraite à 64 ans. On va juste plonger plus longtemps un public déjà fragile dans la précarité. Donc tout ça, ça n'a rien de raisonné, c'est totalement absurde, c'est totalement violent socialement. C'est pour ça que nous, on propose autre chose. On propose de partir à la retraite à 60 ans. Comme ça, les personnes âgées, quand elles commencent à être fatiguées par le travail, pourront laisser la place aux jeunes comme nous, qui ne demandons qu'à travailler. Et vous savez très bien, quand une personne est à la retraite, elle ne fait pas rien. Elle s'engage associativement, elle prend soin de ses proches, elle garde ses petits-enfants. Donc, in fine, elle participe à, entre guillemets, enrichir le pays par ses activités. Donc, arrêtons avec tout ça, arrêtons avec cette violence sociale, arrêtons avec ce dogmatisme libéral qui pousse à détruire le corps des individus avant de leur permettre de jouir de leur retraite, et prenons un peu de temps et instaurons une retraite à 60 ans, qui est largement possible et largement finançable.
Landrine Gang, vous avez le sentiment que certains métiers ne sont pas compatibles avec une retraite à 64 ans ?
C'est pas moi, mais c'est globalement tous les Français. Et, enfin, regardez, vous voyez quelqu'un sur un chantier travailler jusqu'à 64 ans ? Vous imaginez vous faire servir par un serveur qui a 64, 65 ans ? Vous imaginez une caissière travailler jusqu'à 64, 65 ans ? Une femme de ménage travailler jusqu'à 64, 65 ans ? Personne ! Personne n'imagine ça, parce qu'on sait que ces travaux, qui sont physiques, fatiguent le corps, et que personne ne pourra tenir jusqu'à ces âges-là. Et ce n'est pas pour rien qu'à 64 ans, il y a déjà 30% des personnes les plus précaires qui sont déjà morts en réalité, qui ne joueront jamais de leur retraite. Donc ce que propose le gouvernement, c'est juste de faire en sorte qu'il y ait le moins de personnes issues des classes populaires à la retraite, et que lorsque ces personnes-là intégreront la retraite, ils seraient tellement fatigués par le travail, leur corps sera tellement broyé par l'effort, qu'ils ne joueront en réalité moins longtemps de leur retraite en bonne santé. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un projet totalement violent et qui va frapper les classes les plus populaires, les classes laborieuses.
Landrine Gang, co-référent du livret Quartier populaire de la France insoumise, il était l'invité de Pluriel, émission présentée par Loïc Barrière. Riyad Satouf, auteur de L'Arabe du futur, remporte le Grand Prix au Festival d'Angoulême, la plus haute récompense en France du monde de la bande dessinée. Le dessinateur franco-syrien de 44 ans, élu par ses pairs, auteur de BD à l'occasion de la 50e édition du célèbre festival, a reçu la distinction lors de la cérémonie d'ouverture au Théâtre d'Angoulême. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient à 19h et 23h. Et si on en parlait, le thème de cette émission, réforme des retraites, le gouvernement a-t-il déjà perdu la bataille de l'opinion ? Les invités d'Alexis Bachelet, Frédéric Michaud, directeur adjoint d'Opinionway, et Frédéric Dabi, directeur général d'IFOP Opinion. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité.